pour dessiner des lettres comme vous le faites, Albert Botton, faut-il être un fin lettré?
Ah non, pas du tout.
Il faut aimer le texte.
Il faut aimer le texte, bien sûr, mais ce n'est pas le texte, pour moi, qui est important.
Le sens est important, malgré tout.
Bien sûr, mais ce n'est important que si on veut lui donner de l'importance. Mon problème quand je dessine des lettres, c'est qu'elles soient lisibles, qu'elles soient agréables à lire, surtout. Alors, tout dépend de ce que l'on va créer comme caractère et pour quelle utilisation.
Mais Albert Botton, d'abord, avant d'en venir à votre parcours, à votre belle histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans notre société pour qu'au cours du XXe siècle, on crée des professions comme dessinateur de lettres, enfin que cette profession prenne une véritable place? On avait besoin de lettres supplémentaires, de formes supplémentaires, de langages différents.
On a toujours besoin de lettres, de toute façon, durant toutes les époques, depuis Gutenberg. On a toujours eu besoin de lettres, dans tous les pays du monde, et dans toutes les langues aussi. Et c'est un peu comme si vous me disiez, mais pourquoi une voiture existe, pourquoi on la change tous les 2 ans? C'est la même chose.
Non, mais j'ai la réponse. Si je vous dis pourquoi les modèles se multiplient, on va dire d'abord parce qu'il y a la population est plus importante, la consommation plus grande. Est-ce qu'on peut dire la même chose des lettres?
Ah, on peut dire la même chose. On peut dire la même chose des lettres. C'est un produit de consommation créé par des artisans.
Donc la lettre a perdu sa noblesse. Excusez-moi, je vais faire des allusions comme ça, mais c'est pas faux.
Elle a quelque part perdu sa noblesse grâce à l'ordinateur.
À cause
de l'ordinateur, oui.
Ou peut-être grâce, ça dépend quel
oui, point de vue on prend. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'on composait au plomb, le métier était noble. Car il mettait en jeu des compétences très très différentes entre le graveur de poinçons, le fondeur et le typographe. Alors qu'aujourd'hui, avec les logiciels modernes, c'est le même bonhomme qui fait tout.
Le vôtre s'appelle, alors celui que vous utilisez, vous, les créateurs d'alphabet, c'est le fonto...
Oui, alors il existe un fontographeur.
Fontographeur.
Fontographeur, qui est donc un logiciel un peu obsolète aujourd'hui, et qui est remplacé par FontLab, qui est un logiciel créé par un jeune russe de 20 ans. Et puis, bon, il existe depuis quelques années maintenant. Et il est amélioré, alors que fontographeur est resté tel que, et il est un peu vieux.
Albert Botton, avant de devenir dessinateur de lettres, créateur d'alphabet et de lignes d'écriture et de lignes de lecture qui vont façonner notre environnement, vous êtes né à Paris. Le petit gamin de Paris ne rêve à rien, vous me disiez tout à l'heure.
Oui.
La seule réalité, c'est l'atelier de menuiserie de son père.
Oui, la seule réalité, effectivement, c'est l'atelier de mon père, c'est le bois, l'odeur de colle et de copeaux. Et ce qui fait que quand je me suis retrouvé à 19 ans dans son atelier, à sa demande, puisque j'étais incapable de poursuivre mes études, c'est elle surtout qui me poursuivait. Donc j'ai accepté avec plaisir que mon père me prenne chez lui pour apprendre ce noble métier. J'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre, beaucoup de souffrance aussi, parce que les bouts de bois, c'est lourd. C'est pas comme des cartons ou une souris, hein, c'est lourd le bois, puis surtout quand il faut le monter au 6e étage, sans ascenseur. Bon, c'est un métier physique.
Il était menuisier et ébéniste.
Oui, on faisait un peu d'ébénisterie, oui. Mais il était surtout menuisier. Alors, on faisait du parquet aussi, avec la journée à genoux. on dormait bien la nuit. Hein. Pas question d'aller voir les pépettes hein, le soir. Ah non, on dormait bien. Hein. Mais c'est un métier que j'aimais bien parce que j'aimais bien le. J'aime beaucoup la texture du bois et j'aimais bien le travailler. D'une façon assez curieuse, le bois, ça se travaille au toucher. Ça, j'aimais beaucoup. C'est très sensuel.
Là, vous avez encore de quoi toucher du matériau pour dessiner des lettres?
Ah non, là, il n'y a plus rien. Là, oh là c'est là. Uniquement visuel.
Attendez, vous avez quand même dessinateur. Dessinateur, il y a un crayon, il y a un feutre.
Ah, bah, bien sûr.
Ah, bah oui.
J'ai des outils.
Ah.
J'ai des courbes en plexiglas.
Ah.
Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, par rapport à un métier en volume. Mmh. Qui était la manipulation du bois. Là, je ne manipule que des choses fines et peu conséquentes. Mmh. Mmh.
En fait, votre père, j'ai lu, mais vous allez peut-être rectifier, voulait que vous fassiez votre formation à l'école Boulle.
Oui, il voulait que je fasse Boulle, car c'est l'école du bois et enfin, de l'ameublement.
Mmh. Et finalement.
Et finalement, bah, puisque j'étais incapable de poursuivre, de passer un concours d'entrée, parce que c'était ça le problème.
Mais vous aviez le certif quand même, Albert Botton.
J'ai eu le certificat, oui. J'ai eu le certificat.
Parce que ici sont passées déjà des personnes qui ont professionnellement très très bien réussi, en passant péniblement, disait-elle, le certif.
Oui, oui.
Vous en faites partie.
J'en fais partie. Oui, oui.
Donc pas d'école Boulle.
Pas d'école Boulle, et mon père, dans sa sagesse, m'a dit, bon, ben voilà, je t'apprends le métier, on verra ce que tu feras par la suite, mais en tout cas, au moins, ça sera ça d'acquis. Mmh. Et il avait raison, le brave homme. Il comptait sur moi pour reprendre l'atelier, en fait, mais j'étais bien incapable. De toute façon, je voulais dessiner.
Il n'y avait pas d'autres enfants pour prendre la suite de votre père à l'atelier?
Il y avait mon frère, qui a suivi à peu près le même cursus que moi. Il a fini à l'atelier et il en est sorti. C'est moi qui l'ai aidé à se sortir de l'établi pour faire ce métier de graphiste. Il était très doué pour ça. Il avait un sens esthétique. Je lui ai appris la photo aussi. On a eu tous les deux le même périple. À savoir menuiser, dessin.
Et dans cette approche tactile. De la matière, il y a le sens des formes, il y a le sens des courbes, il y a le sens de la profondeur.
Bien sûr.
Ça importe pour un lettré, un bien lettreur.
Bien sûr.
Un créateur de lettres.
En fait, la lettre, c'est de l'architecture.
Ouais.
Hein. L'architecture est en tridimension, la lettre est en bi. Mais la sensation reste la même, même s'il manque une dimension.
Tout à l'heure, on pourra faire le choix des polices, parce que vous en avez créé une bonne quarantaine, je disais tout à l'heure.
Oui.
Mais avant d'en arriver aux polices, aux formes attribuées aux lettres, il y a les lettres elles-mêmes, et dans l'alphabet, toutes les lettres ne se ressemblent pas. Certaines sont peut-être plus voluptueuses, plus aimables.
Oui, oui, bien
que
sûr.
D'autres.
Bien sûr. Surtout si on choisit un style également, qui peut être très aimable. Très voluptueux ou un style puissant et lourd.
Quelle est la lettre, Albert Botton, simplement pour l'instant, avant d'écouter un disque, quelle est la lettre pour laquelle il est plus difficile de lui trouver une personnalité dans l'alphabet?
Ça dépend. Ça dépend du style. Certains styles permettront de trouver des formes intéressantes. Et on va buter sur une lettre ou un chiffre.
Il n'y en a pas une sur laquelle régulièrement vous butez?
Non. Non. Par contre, les lettres les plus difficiles à dessiner sont les S. En général, le S est toujours très pointu à équilibrer.
Tiens, je vais m'essayer pendant le disque tout de suite. d'alphabet, j'ai dit, de police, surtout, elles sont nombreuses depuis 40 ans d'exercice, avec Albert Botton qui a l'oreille toujours vers la musique, alors qui est, oh là là, le retour, les enceintes que vous avez. Mais vous avez retenu la marque, la référence, Albert? Non,
non,
on vous la donnera tout à l'heure.
Oui.
Serge, qui s'y connaît apparemment sur Internet, franceinter.com, dit « Quel charmeur, quelle audace !» Bref, bonjour Albert. Les polices de Frutiger, Ariel, Renault, Consoeur, ont été créées pour leur lisibilité. Mais dans l'alphabet, 26 lettres, tout comme dans la gamme, 6 notes, comment peut-on imaginer une nouvelle police lisible et surtout reconnaissable?
Et c'est ça la grande difficulté, en fait.
Parce qu'aujourd'hui, il y en a trop, à la limite.
Il y en a trop, c'est vrai. Mais l'ordinateur a permis cette éclosion de talent. Lorsqu'on travaillait le plan, ou même la photo, la compo photo, les fabricants regardaient à deux fois avant d'investir pour créer une fonte.
Tiens. Alors, créer une fonte. Excusez-moi, mon capitaine, parce que dans le vocabulaire de votre métier, il y a
une
des termes.
Une fonte vient du plomb. Toujours le plomb, la référence, hein, Gutenberg. Ouais. C'est donc une fonte, une police de caractère pré-imprimée se fabriquait dans une fonderie.
Mmh. Et vous avez travaillé dans une fonderie?
Et j'ai travaillé dans une fonderie de Bernie Pignot, qui n'existe plus maintenant. De toute façon, il n'y a plus de fonderie. Et d'où le terme de fonte, parce que c'était coulé dans une fonderie.
Pour en venir à votre histoire, au passage, Valérie, sur internet franceinter.com, je l'ai eu comme professeur de calligraphie aux Arts Déco, j'en garde un très bon souvenir, je le remercie de m'avoir transmis le goût des belles lettres. C'est bien ça.
Eh ben, ça fait très plaisir.
Elle est graphiste aujourd'hui, Valérie aussi. Au passage, d'ailleurs, je profite du courrier de Valérie, quand on a suivi vos cours, aux Arts Déco ou à l'École Nationale...
Ou à la NCT, oui.
La NCT qui est...
Oui.
Mais ça correspond à un patrimoine aussi, un savoir-faire.
C'est un patrimoine.
Les ouvriers, parce que j'ai habité dans le quartier quand même, les ouvriers, tous les ans, faisaient des manifs dans la rue. Les pauvres, ils étaient plus qu'une poignée. Essayer de défendre leur boulot. Et un vrai boulot d'artisan.
Oui, oui. Et de grande noblesse. Ouais. De grande noblesse. Et tout ça est en train de partir à volo. C'est un drame. En Europe, l'imprimerie nationale était unique, avec son cabinet des Poinçons, son graveur, Monsieur Papu, le grand chef graveur, qui formait d'ailleurs toujours, il avait toujours en formation quelqu'un dans son atelier. C'était fabuleux, quoi. Quand on visitait son cabinet des Poinçons, c'était extraordinaire.
Et alors, quand on passait par vos cours, Albert Botton, on devenait quoi? Typographe? Créateur de logos?
Non.
C'est ça qui marche aujourd'hui pour gagner sa vie, c'est le logo.
Oui, plus ou moins, oui, plus ou moins. En fait, le but de mes cours n'était pas tant de former des dessinateurs de lettres purs et durs. C'était surtout d'émouvoir, de montrer ce qu'est un rythme, ce qu'est une pulsion, un ductus, ce qu'était une sensation quand on regarde un texte. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de caractères qui se ressemblent maintenant. Et il n'y a qu'un œil exercé qui va dire « Ah, ben moi je préfère celui-là, il est plus... » Un peu comme quand on goûte quelque chose, un petit peu plus épicé, un petit peu plus sucré. C'est pareil. D'ailleurs, on dit une couleur. Votre texte a une belle couleur.
Oui. Même pour un graphisme noir sur blanc, il a une belle couleur.
Il a une couleur, oui. On traduit ce gris par une couleur.
Oui. Alors vous avez créé une signature, c'est le Black Botton.
Alors le Black Botton est un caractère que j'ai dessiné dans les années 70 pour Albert Einstein, et pour son catalogue de phototitrage. Et il a une couleur, bien sûr. À l'époque, la mode avait remis en jeu tous ces caractères des années 30. Et je m'étais amusé. J'avais besoin d'une typo comme ça que j'ai dessinée chez Delpire, où j'étais directeur artistique. Et j'avais eu besoin de cette typo, je l'avais dessinée. Et par goût, je l'avais continué, ce qui avait donné le Black Bottom.
Alors excusez-moi, excusez chers amis, avec Albert Botton, nous avons fait une longue parenthèse, parce que son histoire, c'est qu'à 20 ans, lui qui travaille dans l'atelier des ministéries de menuiserie de son père, pose des fenêtres sur un immeuble.
Voilà.
Et qu'est-ce qui se passe là?
Alors,
1952, la révélation. Ben oui, il pose des fenêtres. Il a créé, il a monté des fenêtres. Il est en train de les poser sur un immeuble.
Voilà, c'est-à-dire rapidement, l'architecte avait décidé d'en monter toutes les terrasses, tous les balcons, d'où nécessité également de remonter toutes les parties dormantes et ouvrantes des croisées, des fenêtres. Donc des poses, on descendait tout ça en bas. Mon patron faisait les entures, c'est-à-dire le raccourcissement et l'assemblage. Des montants.
Je dis oui, comme si je connaissais, j'étais très au courant, enfin, je comprends.
On remontait toute la partie basse de la croisée, on refaisait un assemblage, et on remontait le tout, et mon travail consistait, justement, à remettre en place toutes ces parties ouvrantes et dormantes.
Et là, Albert Breton.
Et là, au dernier étage, il y avait un studio de dessin. Et moi, je pensais qu'à ça. Quand est-ce que je vais pouvoir quitter le bois? Mon père, il n'était pas content, mon pauvre papa. Mais moi, je pensais qu'à ça. Alors, entre deux coups de rabot, j'allais voir ce qu'ils faisaient les gens sur leur table. Et je voyais les rouleurs. À l'époque, il n'y avait aucun matériel. Tout se faisait à la main, les maquettes se faisaient à la main, à la gouache, au pinceau, au tire-ligne. C'est tout. Sur du papier à dessin ordinaire. Les clients étaient habitués à voir leur maquette comme ça. Donc, c'était normal. Et les graphistes faisaient donc leur maquette avec ce qu'ils avaient. Petit à petit, on a eu des transferts, on a eu des transferts couleurs, on a eu des développements photos. Enfin bon, la profession s'est modernisée, mais à l'époque, en 52, il n'y avait rien.
Et en voyant ça, en voyant cet atelier, vous savez que c'est ça que vous voulez faire.
Voilà. Le soir, j'ai dit à mon père, je te rends mon bleu.
Il a réagi comment?
Eh ben, bien. Bien. Ah. Il m'a dit, bon. Je vois que là, c'est irréversible. J'étais tellement affirmatif dans ce que je lui demandais qu'il m'a dit, bon, ben, là, je vois que c'est pas la peine de lutter. Mais je suis d'accord.
Comment vous avez analysé, Albert Botton, cette restriction de la part de votre père quand on est menuisier, ébéniste, on est artisan, certes, mais aussi créateur et artiste. Qu'un de ses fils dise, moi, j'ai envie d'être dessinateur, de prolonger, de travailler dans les arts graphiques.
Il faut dire, oui.
Il n'y a pas énormément de différence, il y a quand même des points communs.
Évidemment. Je ne rejette pas la menuiserie, je l'ai jamais rejetée. Mais ce que je voulais, c'est faire du dessin.
Et pourquoi lui s'y opposait?
Il s'y opposait parce qu'il voulait que je prenne la suite, je pense.
C'était uniquement ça, c'était pour avoir la suite de l'atelier.
Oui. Et j'avais des fois des conversations avec lui quand il n'était pas trop fatigué. Et nous discutions sur les proportions d'un meuble. Je lui disais, un meuble peut être très simple, hein, ça peut être 6 bouts de bois assemblés et avoir une élégance folle. Pour lui, il faut dire qu'il n'avait pas de culture artistique. Pour lui, il avait uniquement une culture de son métier de menuisier. Et pour lui, la beauté se mesurait au temps passé. Alors, plus il y avait de marqueterie, plus il y avait de travail, plus c'était beau. Mais je lui disais, mais ça, il peut y avoir des années de travail et finir en tas de merde. Et il comprenait pas. Non, il comprenait pas. Non, on n'était pas sur la même planète. Et c'était donc ça qui faisait la différence.
Une dernière chose pour l'instant, Albert Botton, lorsque vous travaillez, est-ce que vous bougez autant que lorsque vous êtes face à un micro? Parce que pour dessiner, il faut être quand même près de son,
ah, je bouge moins.
De son objet.
Je bouge beaucoup moins. il plaisante, hein.
Oui, oui. Donc vous vous rattrapez avec nous, tant mieux. Un homme de caractère, lettré, dessinateur de lettres, d'alphabet, et inventeur de langues qui sont devenues des marques, en quelque sorte. J'ai donné tout à l'heure des références, des marques, des produits qui ont adopté un style, qui ont adopté une écriture, et c'est l'écriture, pour la plupart du temps, née sous la plume ou sous le crayon d'Albert Botton. Albert qui fait réagir pas uniquement des élèves des Arts Déco, mais aussi des graphistes. Salut à tous les graphistes, hein, qui nous écrivent, franceinter.com. Je retiens pour l'instant celui de Franck. Comme par hasard, je suis graphiste, typographe, et j'écoute votre émission dans mon atelier de menuiserie, puisque pour garder un sens tactile que je n'ai plus en informatique, j'ai besoin de cette pratique physique. Je suis aussi très admiratif d'Albert Botton, un monsieur très important qui, comme tous les professionnels de talent, garde une simplicité, une humilité qui fait du bien, et je confirme complètement, cher ami, ça c'est vrai. Une autre graphiste dont je... Excusez-moi, chère dame ou chère mademoiselle, qui nous envoyait un message, dit... autant on parle beaucoup des lettres, d'un environnement, le regard, la publicité, etc. C'est très important, mais on parle pas du savoir-faire. On parle pas des gens de caractère, ceux qui font le lettrage, ceux qui font la typo. Et c'est un art qui est plus développé en Suisse, aux Pays-Bas ou en Angleterre. Vous confirmez, Albert Botton?
Oui, ou en Allemagne, hein, qui est un grand berceau de la typographie. Mmh.
Et à ce point que
et de la calligraphie.
Et de la calligraphie.
Et Gutenberg était allemand.
Oui. Alors, à ce point que quand vous commencez, il y a très peu, on a très peu d'alphabets variés en France. Il y en a un qui est déjà utilisé en Suisse, qui va être importé en France, et avant de l'importer, en général, les directeurs artistiques ou les gens qui veulent changer un petit peu leur logo vont découper dans des magazines étrangers.
Exact. Exact.
C'est du plagiat, ça, non?
Non, c'est pas du plagiat, c'est que il existait à l'époque, elle existe toujours, mais enfin elle a évolué, c'était l'école suisse, nom de Bâle et de Zurich, et leur caractère de base était l'Helvetica. Or, en France, il n'y avait personne n'utilisait ce caractère. Il aura fallu attendre Albert Hollenstein, l'atelier d'Albert Hollenstein, chez qui j'ai passé 7 ans, a dessiné pour son catalogue de photocomposition, mais il avait aussi un atelier de typographie. Mmh. Donc il fournissait des compos à tout le monde, mais c'était du plomb. Oui. C'était du plomb.
Quand on arrive dans un atelier tel que celui-ci, qui est très réputé, qui a marqué aussi les grandes heures des nouvelles collections, parce qu'on parle comme des couturiers, des nouvelles collections de lettres d'alphabet, on crée selon la commande, où on crée, Albert Botton, d'abord un catalogue que l'on allait proposer aux clients?
Alors, c'est très variable en fonction des circonstances. Hollenstein acceptait de mettre des caractères dans son catalogue en fonction de la personnalité du dessinateur, et puis naturellement en fonction de la personnalité du dessin qui amenait quelque chose au choix du catalogue. Bien. Mais on peut très bien décider soi-même, c'est ce que j'ai fait avec les races, de dessiner un caractère pour moi, que je dessinais d'ailleurs chez Albert en partie et en partie chez moi. Et ce caractère a été admis par Albert, et nous l'avons exploité tous les deux. Peut-être qu'on partageait les royalties, il était exploité en photocompo et avant en montage bromure, parce que quand il n'y avait pas de machine à faire les phototitrages, on montait les bromures, c'est-à-dire les lettres, photo, découpées, collées les unes à côté des autres. Comme on faisait avec l'Helvetica quand on trouvait des magazines étrangers, pour faire du titrage en Helvetica.
Comme faisaient les bandits de grand chemin lorsqu'ils envoyaient des lettres anonymes. Les corbeaux, ils faisaient ça. En fait, parmi les créateurs de nouveaux alphabets, il y a tous les corbeaux et les bandits de grand chemin. Vous êtes un héritier de cette longue tradition. Vous allez créer, alors, par exemple, lorsque vous travaillez à l'ERAS en 1961, vous travaillez ensuite sur une famille. Alors, quand on a choisi un caractère, ensuite on développe la famille. Ça veut dire quoi?
C'est ça. C'est-à-dire que on peut très bien dessiner une série, c'est-à-dire de A à Z, les chiffres, ponctuation.
Ah oui, il y a les chiffres aussi, bien
oui,
sûr.
Oui, bien sûr. Signe étranger, toutes les ponctuations. C'est ça une série. Mmh. Et une police, c'est 2 séries, 4 séries, 6 séries, 8 séries. Mmh. C'est un ensemble de séries, une police.
Mmh. Mmh. Je vous demandais tout à l'heure, Albert Botton, s'il n'était pas nécessaire de comprendre, enfin, de donner du sens d'une certaine manière aux lettres et d'appréhender le sens d'un texte pour aussi travailler un nouvel alphabet. Si, par exemple, on avait à vous donner, peut-être que ça a été le cas, à travailler sur un nouveau caractère d'un alphabet, d'une écriture en cyrillique, est-ce que vous auriez le même plaisir?
En cyrillique, je ne sais pas, parce que je n'aime pas beaucoup ce type d'écriture. Peut-être un peu plus en grec. Mais enfin, en tout cas, en lettres latines, j'aurais toujours plaisir à le faire, bien sûr. Et c'est vrai qu'on peut donner une influence à certaines formes de lettres en fonction du texte à écrire. Par ailleurs, on s'aperçoit que certains types de caractères ne vont pas avec certaines langues. En allemand, il faut faire très attention à certaines proximités, car ils ont des capitales, beaucoup de capitales dans leur texte.
Si on... Mais ils en ont eu deux déjà, ils ont eu Bonn et Berlin. Alors, allez, ouais.
Très bon, très très bon. L'allemand a beaucoup de majuscules dans son texte, et si on n'y fait pas attention, on se trouve avec un texte bardé de points noirs. Il faut donc, dans la mesure du possible, avoir des majuscules qui ne comptent pas trop. En italien, ça sera d'autres problèmes. C'est toujours faire attention aux proximités des 2G en italien, par exemple.
Quand on a votre formation, parcours, alors avec des cours du soir à l'école Estienne, ça va être le cas d'Albert Botton ensuite.
Oui, tout à fait.
Aussi des cours de calligraphie avec Adrien
Frutiger.
De mise en page, ensuite vous entrez donc à Fonderie de Berny, vous allez apprendre beaucoup de choses.
Tout à fait.
Chez Albert Hollenstein. Et ensuite, lorsque vous quittez le studio, vous allez retravailler en freelance avant d'entrer quelques années plus tard, dans l'agence Carré Noir.
Carré Noir, oui, c'est une très très grande étape.
Et là, vous êtes directeur artistique, et là...
Je suis directeur artistique et je fais du produit, comme tout un chacun, et tout en continuant, bien sûr, ma production de dessins de lettres à la maison. Gérard Caron, à l'époque, l'un des patrons de Carré Noir, cherchait à étendre l'activité de Carré Noir sur New York. Donc il s'est beaucoup bagarré, c'était pas du tout évident, et il s'est aperçu que j'étais plus connu à New York que bien sûr Carré Noir, c'est évident. Il s'est demandé pourquoi, effectivement, avec ITC, International Typeface Corporation, j'étais connu par les races, l'élan, et la promotion que faisait ITC dans le monde... dans le monde graphique.
Mais dans le monde graphique, on connaît l'auteur des lettres et des alphabets, oui. Ça circule quand même, parce que nous on le sait pas, on fait plus gaffe à ça.
Non. Il n'y a que les initiés et ceux qui s'y intéressent, qui connaissent le nom des principaux caractères, et puis ceux qui les dessinent. Bon, le Zapf Chancerie, on sait que Zapf est le grand typographe et dessinateur de lettres allemandes du XXe siècle.
Quand je donne comme exemple, alors je vais reciter, mais à force de les citer, ça va me coûter cher, alors je propose à cette société de faire une ristourne de 20% minimum à tous les auditeurs de France Inter. Donc, par exemple, quand on voit le fameux logo qui est connu maintenant, carré, avec le lettrage très particulier du Bon Marché, on sait que c'est Albert Botton.
Oui, mais c'est aussi, je l'ai indiqué... moi, j'ai travaillé, si vous voulez, à la mise au point, au document final, mais c'est Béatrice Mariotti, qui est aujourd'hui une des directrices de Carré Noir, qui l'a créé. Donc, il m'est arrivé souvent de travailler en association avec d'autres directeurs artistiques. Je n'étais pas toujours que mon seul maître. Je travaillais aussi en équipe, je travaillais à la création, comme je pouvais travailler à la finalisation.
Albert, je vous soumets juste face à vous, c'est pas radiophonique, mais les auditeurs de France Inter vont connaître.
Oui.
C'est le nouveau logo de France Inter, avec carré rouge sur carré noir, le logo modernisé de la maison de la radio, et l'ensemble sur une surface, un fond blanc, le lettrage, les caractères utilisés pour France Inter correspondent à quelle police ?
C'est une sorte d'Helvetica, justement.
Et donc ça, c'est celle que Hollenstein a apportée.
C'est celle qu'Hollenstein, la véritable Helvetica, c'est celle qu'Hollenstein a importée en France.
C'est la plus lisible ou
non. Non. J'ai toujours considéré.
Attention à ce que vous allez dire.
Tout au moins dans le texte, pour du caractère de texte, les caractères sans empattement sont infiniment moins lisibles et plus pénibles à lire que des caractères avec un empattement.
Un empattement, c'est-à-dire une...
C'est-à-dire un petit arrêt en haut et en bas du fût.
Ah oui, d'accord.
Ceci, c'est un fût.
Oui. Ah oui, oui. Alors, il me montre. Je vais vous expliquer. Vous savez, ça s'élargit un tout petit peu, par exemple, sur un L. Ça s'élargit un tout petit peu. Ça s'évase un tout petit peu en haut et un tout petit peu en bas. C'est-à-dire que ça fait un pied et une tête.
C'est ça.
Donc, on n'a pas une ligne simple graphiquement. Comment on appelle ça
simple.
Austère,
oui. Un I est donc là deux rectangles, un carré et un rectangle. Alors que un caractère à empattement aura, on appelle ça aussi un sérif, aura une petite retombée à droite et à gauche, et sur le lit à gauche.
Bon, on va réfléchir à tout ça, on va voir si on change l'écriture. Le nombre de graphistes sur franceinter.com en ce moment, ça déborde presque. Alors, je vais essayer de résumer tous les messages. Merci beaucoup. De toute façon, je les transmets à Albert Botton, hein. Surtout qu'il y a d'anciens de Hollenstein qui appellent en disant « Ouais, Albert, souviens-toi de nous », etc. Marianne, que d'art et d'œil, sans jeu de mots, pour donner vie à des fontes que l'on maltraite aujourd'hui, tant et tant en ne respectant quasiment plus les règles élémentaires de la typo. Tout récemment, un autre auditeur qui est graphiste dit « J'aimerais savoir si Albert Botton n'est pas énervé aussi par ce manque de respect de la typographie. » Ça veut dire quoi, Albert Botton?
Ça veut dire que c'est plus enseigné. C'est tout simple.
À cause de l'ordinateur, on va y revenir.
L'ordinateur, effectivement, mais c'est aussi tout un contexte général. Hein. Maintenant, faut aller vite, faut pas que ça coûte cher. Et si vous n'êtes pas content, il y a trois graphistes à la porte qui attendent avec leur ordinateur. L'ordinateur a eu cette problématique aussi de dévaloriser le travail. Avant, quand vous travailliez normalement sur du carton, avec des compos en papier, le client regardait son document et voyait le travail du spécialiste. Aujourd'hui, on voit plus rien. Vous donnez la disquette et c'est parti. Donc, il n'y a plus de respect de qui que ce soit. Voulez-vous qu'on respecte les lois typographiques?
Alors, les lois, quelles sont les... Alors, en une minute, parce que j'aimerais qu'on parle aussi, finalement, de ce qu'on crée aujourd'hui.
Oui.
Mais les règles principales, essentielles de la typographie.
Le blanc. Respecter le blanc autour des lettres.
Mais alors, je comprends. Excusez-moi, je comprends pas.
Respecter l'interligne. Respecter l'espacement entre les mots. Respecter l'espacement entre les lettres.
C'est les laisser respirer?
C'est ça. Il faut toujours laisser respirer la typo. C'est ça, la loi primordiale. Un très beau dessin de lettres mal mis en page, c'est une catastrophe typographique. C'est pas le dessin d'une typo va se sentir. On va pas l'expliquer encore huit. Ah ben comment il a fait son non. Ça va se ressentir. Par contre, ce qui va donner du plaisir à lire, c'est d'ouvrir une page et voir cette respiration autour du texte. C'est ça l'important. En somme, c'est le typographe, celui qui met en page, qui finit le travail du créateur de lettres.
Par rapport à l'agence Carré Noir, vous la quittez en 92 pour être à nouveau freelance, libre.
Oui, puisque j'étais retraité. Ouais. Donc,
retraité actif.
Retraité actif. Et je, suite à un travail, j'ai eu l'idée de casser mes lettres pour m'amuser, pour voir jusqu'où on pouvait disloquer des choses et les réassembler sous une autre forme.
Albert Botton s'est pallié quand même à tout ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, la typographie malmenée, des règles non respectées, un métier qui va s'effacer.
Bien sûr.
C'est cassé un peu votre travail.
Oui, oui, mais c'est cassé quand même par quelqu'un qui connaît le métier. Mmh. Donc, avec la même rigueur, je casse mes lettres. Mais c'est moi qui le fais, ouais. Pas quelqu'un d'autre.
Et vous avez inventé le caquet-boton.
Et le caquet-boton, le caquet-boton est donc une démarche. Comment dirais-je, supportant ce travail de démolition de la lettre.
Et c'est devenu un objet décoratif.
C'est devenu un objet décoratif.
La lettre a explosé, elle est à la verticale,
sur
un fond qui est un fond de peinture.
Kakemono. Ouais.
Méthode japonaise. Hein,
méthode japonaise, ouais. Qui veut dire qui est suspendu.
Ben vous revenez demain.
Oui, et ben je repasse demain. D'accord, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir.
Ouais, puis peut-être après-demain, puis après-après-demain.